Ce matin, on commence une série de prédications dans le livre du Lévitique, le troisième livre de notre Bible. Vous vous posez sans doute la question à juste titre, mais pourquoi avoir choisi le livre du Lévitique ? Serait-ce une folie de méditer le livre du Lévitique en Église ? Vous vous dites peut-être que ce livre est adressé aux Lévites et aux prêtres, les responsables des sacrifices dans la tente de la rencontre il y a des milliers d'années. Et vous en déduisez donc que ce livre ne vous concerne pas, tout simplement. Mais en fait, il y a seulement un tiers du livre qui est réellement destiné aux prêtres et aux lévites. Et donc sinon, les deux autres tiers, la grande majorité du livre, s'adresse à tout le peuple dans sa globalité. Et il s'adresse aussi à nous à travers ces milliers d'années qui nous séparent. Et le thème du livre est parfaitement pertinent pour nous. Comment est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu ? Alors, il y a 15 jours, quand j'ai annoncé que nous lirions le livre du Lévitique, j'ai vu vos têtes et j'ai su. J'ai su que ce livre ne figurait pas dans votre top 5 de vos livres favoris qui trônaient sur votre chevet. Je me suis même demandé, peut-être que la majorité d'entre nous ne l'avons réellement jamais vraiment lu, ce livre du Lévitique. Un texte de loi, difficile à comprendre. Mais c'est la parole de Dieu. Et il a mis des richesses et des merveilles qu'il nous faudra découvrir ou redécouvrir. Et bien sûr, l'autre objectif qu'on va poursuivre en méditant le livre du Lévitique, c'est de nous préparer à Pâques. La mort de Christ est présentée dans la Bible comme le sacrifice parfait. S'il y avait un seul sacrifice, c'est celui-là. Mais il se base sur quoi ? Sur les sacrifices du Lévitique. Et donc, si nous voulons comprendre ce que Jésus a fait pour nous, il nous faut comprendre les sacrifices du Lévitique. C'est une préparation pour Pâques avec en objectif la compréhension du sacrifice de Jésus pour nous. Donc ce n'est pas rien que de méditer ensemble le livre du Lévitique. Alors, on y va. Alors, d'abord, des constatations simples. Pour m'y préparer, bien entendu, j'ai lu le Lévitique en entier. J'ai constaté, on le fait de façon simple à la lecture, que les 7 premiers chapitres concernent uniquement les sacrifices. Après, on passe à autre chose. Mais en tout cas, les chapitres 1 à 7 ne parlent que de sacrifices. Et c'est assez facile de faire ce repérage aussi à la lecture. Les 3 premiers chapitres, ça concerne des sacrifices volontaires. Il n'y a aucune obligation à les apporter. Par contre, les chapitres 4 et 5, les deux suivants, concernent deux sacrifices qui sont obligatoires. On essaiera de comprendre pourquoi dimanche prochain. Donc, 3 sacrifices d'abord qui sont volontaires, et ensuite 2 sacrifices qui sont obligatoires, qui sont imposés. Et les chapitres 6 et 7 qui reprennent tous ces différents types de sacrifices pour donner quelques précisions. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, on s'attaque Lévitique 1 à 3, les sacrifices volontaires. On ne va pas tout relire. Je vous invite pour dimanche prochain à vous préparer en lisant les chapitres 4, 5, 6 et 7. Et aujourd'hui, je sais que certains d'entre vous, on l'avait annoncé il y a 15 jours, certains d'entre vous ont pu certainement lire les chapitres 1 à 3. Ça vous sera sans doute d'une grande aide. 3 premiers chapitres pour 3 sacrifices différents qu'on peut résumer dans ce tableau. Chacun des sacrifices a un but différent. Et c'est ce but-là qu'il nous faut rechercher, et il est indiqué dans le texte à chaque fois. Alors vous voyez que le premier sacrifice qui est décrit dans tout le chapitre 1, qui s'appelle un holocauste. Holocauste, c'est ce qui vient du verbe monter, parce que c'est un sacrifice qui est entièrement brûlé et qui monte vers Dieu. On trouve son but au verset 3 du chapitre 1, c'est d'être agréé par Dieu. Donc quelqu'un qui voulait s'approcher de Dieu, il devait avant tout lui offrir un holocauste, pour pouvoir juste s'approcher de lui, être agréé par lui. C'est le but de cet holocauste. Vous voyez que les offrandes étaient fonction des ressources de chacun. Si on était riche, on pouvait offrir un taureau, sinon un mouton ou un chevreau, et sinon des oiseaux. Chapitre 2. Offrande végétale. Le but, c'est d'offrir un cadeau à Dieu. Et vous avez peut-être remarqué avec l'histoire du sel, le lien qu'il y a avec l'Alliance. Au verset 13, c'est un sacrifice, donc ce cadeau de l'offrande végétale, qui consiste en de la farine, farine non cuite ou farine cuite ou premier fruit, devait toujours être accompagné de sel, verset 13, qui rappelait l'alliance entre Dieu et Israël. Alors, les spécialistes se sont beaucoup demandé pourquoi du sel, et ils pensent que c'est parce que le sel est indestructible, comme l'alliance entre Dieu et son peuple. Voilà pour ce cadeau de farine ou de premier fruit offert à Dieu en cadeau, comme rappel de l'alliance et comme signe d'obéissance aussi. Et chapitre 3, il s'agit de l'offrande de communion. Alors c'est le sacrifice qui est sans doute le plus facile à comprendre, parce que comme son nom l'indique, c'est pour entrer en communion avec Dieu, pour pouvoir vivre du bon temps avec lui, autour d'un animal qui cuit. Et cet animal-là n'est pas entièrement offert en sacrifice à Dieu. Il y a une partie qui est destinée à être mangée avec les amis, avec la famille, dans le temple. Et là, pareil, en fonction des ressources de chacun, c'est soit un taureau ou une vache, soit un mouton, soit une chèvre. Alors, on pourrait s'arrêter là pour le côté technique. Là, on a dans ce tableau là, résumé les trois premiers sacrifices dont il est question dans le livre du Lévitique. Mais la question qui nous est posée derrière, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu? Qu'est-ce qu'on apprend sur nous-mêmes à travers ces sacrifices? Et on apprend des choses sur Dieu et sur nous-mêmes. Et en deux points, le premier étant qu'on apprend, on est face à l'un des attributs essentiels de Dieu. En fait, on va voir ce matin les deux attributs essentiels de Dieu. Le premier étant sa sainteté. Il est tout autre, il est tellement différent de nous, il ne peut pas supporter le mal. Et pour le coup, dans sa relation avec nous, cette sainteté intervient. Et on va voir comment. Où est-ce qu'on voit la sainteté de Dieu à travers ses sacrifices? Alors, je ne sais pas si vous l'avez noté à la lecture, il y a un point commun entre les trois sacrifices. Est-ce que vous l'avez noté de comment ils sont décrits? Ils sont décrits comme une odeur apaisante. C'est le point commun aux sacrifices chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. Quand on brûle un taureau, quand on brûle de la farine ou quand on brûle une vache, c'est, d'après le texte, une odeur qui apaise la colère de Dieu. Il est bien question de la colère de Dieu qui ne peut pas supporter notre mal ici. Et il y a un geste qui est associé à ça. Puisque Dieu est en colère après nous, et puisque ces sacrifices doivent servir à apaiser sa colère, il y a aussi un geste tout à fait symbolique qui est intéressant pour nous, qui est rappelé à plusieurs reprises dans ce passage. Celui qui sacrifie, il pose sa main sur la tête de l'animal en signe de transfert des péchés, des fautes. C'est en quelque sorte, les fautes que j'ai sur moi, je les transfère sur l'animal, et c'est l'animal qui va payer à ma place. Il y a un transfert de fautes et transfert de vie. Moi, je vis, mais l'animal meurt. Transfert de culpabilité et transfert de vie. Vous relisez à tête reposée chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Alors, bien sûr, il n'est pas question de ça au niveau de la farine. On n'impose pas la main à la farine, il n'y a pas de transfert de substitution. Mais pour l'Holocauste et pour le sacrifice de communion, il est question de transfert des péchés avec ce geste-là. Alors, ça nous paraît assez banal, là, mais il faut qu'on se replace dans le contexte. Aujourd'hui, quand on veut de la viande, on fait quoi? On va au supermarché et on achète une barquette. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait ça. Tu amènes ton animal au temple, tu prends un couteau et c'est toi qui l'égorges. Vous relirez bien le texte, c'est pas le prêtre qui égorge, c'est celui qui offre qui égorge. Ça permet déjà de prendre conscience du poids de notre péché, le fait que ça soit l'offrant qui égorge son propre animal. Autre chose qui permet de prendre conscience du poids de son péché, c'est le poids de l'animal. C'est aussi simple que ça. 800 kilos, un taureau, en moyenne. Je ne sais pas si vous vous imaginez en train d'égorger un taureau de 800 kilos au temple. Et aussi, pensez à ça. C'est l'une des. Aujourd'hui, ça veut plus rien dire pour nous. Un taureau ou une vache. Mais à l'époque, les gens vivaient de ça. Ça représentait véritablement quelque chose, un taureau ou une bête. Et donc, être là dans le temple et offrir la plus belle pièce de son troupeau pour Dieu, et pour faire quoi? Pour que ça parte en fumée quelques minutes après? Mais quel gâchis! Quel gâchis! Une bête qui aurait pu nourrir des familles pendant des semaines entières va partir en fumée pour rien du tout. C'est un véritable gâchis. Et ça montre là aussi le déséquilibre qu'il y a entre Dieu et nous. Cette bête qui représente quelque chose d'énorme pour toute une famille entière ne représente plus rien du tout quand ça arrive à Dieu. Une odeur agréable. Qu'est-ce qu'on en a à faire d'une odeur agréable ? C'est de la fumée. Le poids du péché. On le voit ici. Une belle bête qui part en fumée. Et pourtant, les trois types de sacrifices que nous étudions ce matin, il n'y en a aucun dont le but est de demander pardon à Dieu. Le but de ces trois sacrifices, c'est quoi ? C'est de dire merci. C'est d'entrer en communion avec Dieu pour passer un bon temps avec sa famille et avec Dieu autour. Et qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien, ça nous dit que même dans la reconnaissance, même dans la joie, même dans la communion avec Dieu, il y a ce rappel que nous sommes pécheurs et qu'il y a ce déséquilibre entre Dieu et nous. Même dans la joie et la reconnaissance, le texte de ce matin rappelle aux Israélites qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de quoi ? D'une victime expiatoire, chapitre 1, verset 4. Une victime va mourir pour qu'on puisse s'approcher de Dieu. L'animal se substitue à l'homme dans le châtiment. Même dans la joie, même dans la reconnaissance. Il y a un autre élément dans le texte qui nous montre que Dieu est saint, qu'il est parfait et qu'on ne peut pas s'approcher de lui n'importe comment. Vous avez peut-être noté à quel point la procédure est complexe quand on veut offrir. C'est la première des choses qui frappe à la lecture. On n'y comprend rien. Il y a tout un nombre de trucs à faire. Il faut découper la bête, il faut mettre la peau de côté, il faut tronçonner en quartier. Il y a des parties qu'on va laver, il y a des parties qu'on va mettre sur le feu directement. D'autres, quand on les aura lavées, on les replacera sur le feu. Mais c'est quoi cette usine à gaz ? C'est une procédure complexe. Pour rappeler quoi ? Pour rappeler qu'on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. C'est là encore la sainteté de Dieu qui émerge de toute cette complexité de procédure. Alors peut-être que vous avez du mal à vous représenter physiquement à quoi ça ressemblait. Il y a eu des tentatives de reconstruction, de reconstitution de la tente de la rencontre. Je vais vous en montrer une. Elle est assez intéressante. Et vous voyez, là, vous voyez ici l'autel des sacrifices, sur lequel on brûlait tous les animaux. Et vous voyez là le bassin des ablutions, dans lequel les parties des animaux étaient lavées. Voilà. Et là, après la tente de la rencontre, dont on parlera abondamment dans le reste des méditations sur le livre du Lévitique. Donc on en est là, une odeur apaisante, une procédure complexe, et le dernier point qui signale la sainteté de Dieu, à quel point il est différent de nous, c'est qu'il exige le meilleur en fonction des capacités de chacun. À chaque fois, l'animal qui est censé être sacrifié, c'est pas l'animal qui est déjà malade ou qui est blessé ou qui s'est fait à moitié manger par le loup. L'animal qui doit être offert en sacrifice, c'est un animal parfait, sans défaut. Un jeune mâle sans défaut, nous est-il dit, pour l'Holocauste. La plus belle pièce du troupeau qui part en fumée. Il exige le meilleur de chacun en fonction de ses capacités. Alors là, vous voyez qu'avec ces trois aspects, on commence à cerner un peu la sainteté de Dieu. Dieu qui ne peut pas tolérer le péché, et donc il y a un sacrifice qui apaise la colère de Dieu, une procédure complexe qui nous montre qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment, et il ne demande pas un petit sacrifice, non, c'est le meilleur sacrifice, le meilleur en fonction de chacun. Voilà, ça c'était pour cet attribut de la sainteté de Dieu. Et quel est le deuxième attribut que l'on constate dans ces trois chapitres ? C'est l'amour, bien entendu. L'amour de Dieu pour son peuple. Et comment on le voit ? Eh bien, on le voit par l'ensemble du livre du Lévitique. C'est quoi l'ensemble du livre du Lévitique ? C'est une méthode pour s'approcher de Dieu. Malgré le fait que l'homme est mauvais, qu'il encourt la colère de Dieu, eh bien Dieu aime son peuple, et il lui fournit une méthode, il lui fournit une technique pour pouvoir s'approcher de lui sans encourir, sans pouvoir être massacré sur place. Et il lui offre donc ce système du sacrifice pour apaiser sa colère. Alors je ne sais pas si vous aimez les modes d'emploi. Je ne sais pas si vous les lisez quand vous achetez un nouveau produit. Moi, j'aime pas trop ça. En particulier pour tout ce qui relève de l'électroménager. Mais parfois aussi, je suis en galère après pour faire fonctionner. Je vois qu'il y en a qui ont déjà vécu aussi ce type de problématique. C'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir faire fonctionner le nouveau four ou la nouvelle machine à laver sans avoir à lire le mode d'emploi, mais parfois, c'est juste pas possible. Et bien là, c'est pareil pour nous. Comment Israël aurait-il pu s'approcher de Dieu sans lire le mode d'emploi ? Le Lévitique, c'est une partie du mode d'emploi pour pouvoir s'approcher de Dieu. Et sans ça, eh bien, on peut pas, on n'arrive pas à s'approcher de Dieu. On ne peut pas le faire. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas le faire sans risquer la mort. Vous voyez qu'en fait, peut-être que quand vous êtes mis à lire le livre des Lévitiques, vous avez râlé au plus haut point. Mais en fait, non, le livre du Lévitique, c'est une preuve d'amour de la part de Dieu qui donne ce système de sacrifice à son peuple. Et ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Parce que en mettant en place ce système de sacrifice, qu'est-ce que Dieu est en train de faire ? De préparer ce qu'il va faire après, longtemps après, dans l'avenir. Alors cet avenir, c'est notre passé à nous. C'est ce qui s'est passé il y a 2000 ans, lorsque Jésus a donné sa vie à notre place sur la croix. En fait, Jésus, c'était Dieu devenu un homme pour offrir le sacrifice parfait, nous réconciliant de façon définitive avec Dieu. Parce que tous ces sacrifices qu'on vient d'étudier là, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, c'est des sacrifices qui étaient imparfaits. À chaque fois que vous vouliez vous approcher de Dieu, il fallait les recommencer. C'était un système de sacrifice imparfait. Mais Dieu a donné en Jésus-Christ le sacrifice parfait qui n'a pas besoin d'être répété, tellement il est parfait. Et ça, c'est ce que Paul nous le rappelle en Éphésiens 5, verset 2. Et regardez, il utilise exactement les mots que nous avons lus ici en Lévitique 1, 2 et 3. Regardez qui est Jésus. Le Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme quoi ? Comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Jésus, il est quoi ? Il est l'holocauste parfait, chapitre 1 du Lévitique. Il est l'offrande végétale parfaite, chapitre 2 du Lévitique. Il est le sacrifice de communion parfait, chapitre 3 du Lévitique. Alors, parfois, en y réfléchissant, on trouve aussi cela un peu barbare. Tout ce sang qui doit être versé, cette vie, cette mort qui doit être donnée pour que d'autres puissent vivre. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu barbare. Mais quand on fait la somme de toutes les barbaries que les hommes et les femmes ont commises et commettent encore, on se rend compte que ce n'est pas Dieu qui est barbare, mais c'est bien nous, l'humanité, qui le sommes. Et ce que Dieu a dû faire, c'est quoi ? C'est juste prendre au sérieux notre barbarie, parce qu'il est saint. Il ne peut pas supporter le mal. Et donc, il est obligé de prendre au sérieux notre barbarie. Et il a dû offrir quoi ? Un sacrifice encore plus barbare pour nous sauver tous de cette barbarie. Vous voyez comment tout le système du Lévitique est en fait un énorme cadeau qu'il nous a fait. Cadeau qui annonce un cadeau encore plus grand, son propre sacrifice à la croix, en offrande parfaite, en sacrifice parfait pour nous sauver, pour apaiser la colère de Dieu à notre égard. Alors, on va passer un petit temps à réfléchir à ce que ça veut dire pour nous. Vous commencez peut-être à percevoir un certain nombre de choses sur l'application pour nous aujourd'hui. Le premier point que je voudrais mentionner, c'est la question du sacrifice. Parce que peut-être que la question du sacrifice, ça nous paraît abstrait aujourd'hui. Vous dites, on ne fait plus de sacrifice aujourd'hui. Donc, ça ne vous parle pas. Mais j'aimerais vous prouver le contraire. J'aimerais vous prouver que des sacrifices, on en fait. J'aimerais vous montrer que dans le monde, chacun a ses idoles et que chacun se prosterne devant elles. Et chacun lui offre des sacrifices. Alors, on va commencer avec on va se replonger dans des temps anciens. Est-ce que vous connaissez Aphrodite? Oui? Déesse de? Déesse de l'amour, déesse de la beauté. Dans la Grèce antique. Vénus chez les Romains. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne se prosterne plus devant la statue d'Aphrodite ou de Vénus, et on ne lui offre plus de l'encens ou des sacrifices rituels comme les Grecs et les Romains le faisaient il y a des milliers d'années. Mais, combien d'opérations de chirurgie esthétique parce qu'on n'accepte pas telle ou telle partie de son corps? Combien de jeunes femmes ont-elles un souci obsessionnel de leur image à cause de qui? Des mecs. Pourquoi est-ce que si vous mettez une femme en maillot de bain sur un produit, il a plus de chances de se vendre que si vous n'en mettez pas? Combien de couples brisés sur l'autel de la sexualité? Adultère, pornographie, je vous renvoie à tout ce qu'on a vu, les cultes passés. J'ai bien peur que l'homme et la femme du 21e siècle soient tout autant idolâtres que l'homme et la femme antique qu'on a parfois tendance à mépriser un peu vite. Peut-être avons-nous tendance, nous aussi, à nous prosterner un peu devant Aphrodite. À moins que ce ne soit devant Déméter et Artémis. Déméter, les amis? Non, ce n'est pas les enfers. Déméter, c'est le travail de la terre. Et Artémis, c'est pas la guerre, c'est la chasse. C'est Diane, chez les Romains. Alors, Déméter, Artémis, le travail de la terre ou la chasse? C'est quoi ça? Peut-être qu'on ne brûle pas d'encens devant les images de Déméter et d'Artémis, mais quand le travail, quand l'argent ou la carrière commence à prendre tellement d'impact, tellement d'importance dans notre vie, qu'on maltraite ou qu'on méprise sa famille, ses enfants, sa femme ou son mari, est-ce qu'on n'est pas aussi un peu en train de se prosterner devant Déméter et d'Artémis et de lui donner une place dans notre existence? Quand notre bonheur se mesure en fonction de notre compte en banque ou de notre patrimoine, notre maison, notre voiture, est-ce qu'on n'est pas nous aussi un peu en train de se prosterner devant Artémis ou devant Déméter? J'avais envie de continuer avec Dionysos, la divinité de la fête et du vin, comme on sait bien l'apprécier ici en France, mais je me suis dit que j'avais pas besoin de vous en parler, que c'était tellement évident pour tout le monde. Et j'ai bien peur qu'on soit bien des gens très très religieux en France et dans le monde. Le français se dit complètement athée et irreligieux. Je pense qu'il est profondément religieux dans sa façon de vivre, tout simplement. Tant que nos existences, sous découvert de modernisme et de technologies avancées, tant que nos existences sont gouvernées par des idoles comme l'argent, le succès, la gloire, la sexualité ou la fête, je pense qu'il faudra admettre que nous sommes bien des gens très religieux. Et ces idoles, comment elles fonctionnent? Parce qu'il faut leur reconnaître un grand pouvoir d'attraction à ces idoles. Comment elles fonctionnent? Elles gouvernent notre cœur. Elles veulent toute la place. Et on n'arrive pas à s'en libérer. Elles reviennent à la charge sans arrêt. Et c'est cela le péché. Ces idoles qui nous attirent et qui nous conduisent dans des voies qui ne sont pas bonnes ni pour nous, ni pour notre famille. Alors c'est sûr, oui, on mérite la colère de Dieu. Dieu qui ne supporte pas le mal que nous faisons, que nous pensons, que nous disons. Mais, et c'est là la fameuse bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ mort à notre place sur la croix. Jésus-Christ qui a payé pour nous. Qu'est-ce qu'il faut faire avec tout ça? Il faut faire pareil que les Israélites. Les Israélites, ils faisaient quoi? Ils faisaient confiance, ils plaçaient leur confiance dans quoi? Dans les sacrifices qu'ils pouvaient amener au temple et faire brûler pour pouvoir s'approcher de Dieu. Alors nous, ce n'est pas dans les sacrifices au temple de Jérusalem qui n'existent plus qu'il faut que nous plaçons notre confiance. C'est qu'il faut qu'on place notre confiance dans le sacrifice ultime que Jésus a apporté à notre place sur la croix. Et ça, c'est l'unique façon de nous approcher de Dieu aujourd'hui. Dieu nous invite à nous détourner de notre vie passée. Il nous invite à lui demander pardon. Et c'est ce qu'il fait. Il nous pardonne, quels que soient les actes que nous avons faits. Alors, il y a une petite différence avec les Lévites, quand même, avec Israël. C'est qu'il était question de répéter les sacrifices du temps d'Israël. La répétition des sacrifices, ça remettait régulièrement l'homme à sa place, à sa juste place devant Dieu. Et ça, c'est une difficulté pour nous. C'est que, comme nous ne répétons pas le sacrifice de Christ, il a été donné une fois pour toutes, on pourrait avoir la tendance à oublier pourquoi on peut être là ce matin, ensemble, à louer Dieu. Et ça, il ne faut pas l'oublier. On peut être là ce matin que parce que Christ a payé pour nous. Sa mort nous lave de nos fautes. Nous sommes déclarés justes, nous sommes pardonnés, on est en règle avec Dieu grâce à la croix de Christ. Et c'est uniquement grâce à ça qu'on peut être là ce matin. On a besoin, chacun d'entre nous, de revenir à Dieu régulièrement. Revenir à Dieu dans la foi et la repentance. Nous humilier devant lui, nous rappeler le sérieux de notre péché et puiser en lui les forces de changement dont nous avons besoin. Pourquoi ? Pour lutter contre les idoles qui cherchent à toujours s'enraciner dans notre cœur. Déraciner les idoles et y planter l'amour de Dieu. Y planter ce que Christ a fait pour nous à la place. Ça, c'est suffisamment puissant pour nous aider à déraciner nos idoles et les redéraciner sans arrêt et y replanter l'amour de Dieu pour que ce soit l'amour de Dieu qui porte du fruit dans nos vies et pas notre idolâtrie. Alors, où on en est ? On a pris conscience de notre idolâtrie et on a pris conscience de la nécessité de revenir à Dieu dans la foi et la repentance. On n'a plus à sacrifier des taureaux à chaque fois qu'on veut s'approcher de Dieu. Il n'y a plus de sacrifice à apporter. Mais l'apôtre Paul, en Romains 12, il parle quand même d'un sacrifice. Je vais vous lire juste un verset. Je vous invite à offrir à Dieu votre corps comme un sacrifice vivant, sain et qui plaise à Dieu. Offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Vous imaginez un peu ? Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas les kamikazes et aller se faire sauter sur une bombe, hein, offrir nos corps. Ça n'a rien à voir. C'est une invitation plutôt à donner notre vie entière, notre corps, notre âme, notre extérieur et notre intérieur pour Dieu, pour le service de Dieu. Rechercher sa volonté, lui obéir, témoigner de lui pour que son royaume puisse grandir partout. C'est ça, offrir nos corps en sacrifice pour le service de Dieu. Et là aussi, les Israélites, dans le livre du Lévitique, ça nous interpelle. Ils donnaient quoi ? Leur meilleure bête, la meilleure bête de leur troupeau en sacrifice. Est-ce qu'on donne, nous, le meilleur de nos vies à Dieu ? Je me suis posé la question par rapport à ce que faisaient les Israélites à l'époque. Est-ce que ce que vous faites pour Dieu est l'équivalent de la plus belle bête ? Que serait votre troupeau ? Histoire. C'est l'histoire d'une famille évangélique, bien propre sur elle-même, qui nettoie son congélateur. Au fond, après avoir tout nettoyé, il découvre un poulet oublié depuis des années. Se pose la question, est-ce qu'il est encore comestible ? Il cherche sur Internet, Google. Et il trouve que, visiblement, il n'y a aucun problème de consommation. On ne risque rien à le manger, mais très certainement qu'il aura perdu toute sa saveur. Que décide cette famille ? D'offrir le poulet à l'église pour le prochain repas communautaire. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé ne serait que purement fortuite. C'est qu'une blague, bien entendu, et je vise personne, hein, vous m'avez bien compris. Et je m'inclus plutôt dans la question. Est-ce qu'on est prêt à donner de nous le meilleur pour Dieu ? Ou Est-ce qu'on donne, j'en sais rien moi, est-ce qu'on donne notre portion congrue? Est-ce qu'on donne, est-ce que donner une heure et demie, le temps de venir à un culte les dimanches, est-ce que c'est juste ça qu'on a envie de donner à Dieu? Ou est-ce qu'on a envie de donner plus? Est-ce qu'on ne devrait pas chercher tous à donner le meilleur pour Dieu? Parce que dans notre communauté, on a des grands projets. On a des grands projets d'église. On voudrait que le royaume de Dieu croisse à Pau, qu'il croisse dans nos familles, qu'il croisse dans notre entourage, auprès de nos collègues de travail, dans notre voisinage de maison. On aimerait que le royaume de Dieu croisse. Et si on veut vraiment qu'il croisse, eh ben, va falloir mouiller la chemise à un moment. Va falloir donner du meilleur de nous-mêmes. Est-ce qu'on est prêt à utiliser tous les dons que Dieu nous a donnés à son service ? Notre argent, notre temps libre. Est-ce qu'on est prêt à prendre des vacances pour servir le Seigneur? Pensez à ces Israélites qui donnaient le meilleur de leur troupeau pour Dieu. Et pensez à Dieu qui a donné ce qu'il avait de meilleur, son Fils unique, sacrifice parfait. Pour nous sauver. Je crois qu'il mérite notre vie entière en retour. Amen.